Bonjour et bienvenue à tous à Rocamadour pour le dernier jour du festival. La 18e édition se termine ce soir avec le concert donné à 20h30 dans la vallée de l'Alzou par la pianiste Lise de la Salle et l'orchestre de la Garde républicaine. Au programme, le deuxième concerto de Rachmaninov et la symphonie du Nouveau Monde, la 9e de Dvorak. Hier, je vous ai proposé une interview du colonel Sébastien Billard qui va diriger ce concert de clôture. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Lise de la Salle, que je salue et remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions.
Bonjour.
Si mes informations sont bonnes, c'est la première fois que vous allez vous produire au festival de Rocamadour. Est-ce qu'il s'agit aussi pour vous d'une découverte du lieu lui-même?
Oui, c'est une grande première à tous les niveaux, comme vous venez de le mentionner. Le lieu que je ne connais pas, que j'ai hâte de découvrir, et le festival dont j'ai entendu parler depuis longtemps, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de m'y produire, donc ça va être deux grandes découvertes pour moi.
Et de surcroît, ce concert se déroule en plein air au pied de la cité dans un cadre extraordinaire. On va y revenir un peu plus tard dans cet entretien. Je voudrais qu'on parle d'abord de votre carrière et avant tout de votre formation de musicienne, parce que vous avez été une pianiste très précoce, une sorte d'enfant prodige. Vous avez donné à 9 ans votre premier concert à Radio France. Vous avez remporté à l'âge de 12 ans le premier prix du concours international d'Ettlingen en Allemagne. Et vous êtes entrée très tôt au CNSM, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Quels ont été tout au long de votre parcours les professeurs, les maîtres qui ont particulièrement compté pour vous?
En fait, je m'estime très heureuse et très chanceuse dans les professeurs et les personnes importantes dans ma carrière qui m'ont marquée, qui m'ont accompagnée. Parce que, tout simplement, je pense avoir rencontré des très bonnes personnes au bon moment. C'est-à-dire que j'ai eu des rapports très privilégiés et très chaleureux et surtout très marquants avec chacun de mes professeurs. Mon premier professeur, par exemple, je m'en souviens encore, non pas parce que c'était absolument exceptionnel enfin, c'était exceptionnel, mais parce qu'il y avait une gentillesse, une bienveillance, une tendresse, une écoute qui sont les choses fondamentales quand on commence à 4 ans, alors que je n'avais aucune ambition ou aucun rêve, si ce n'est de faire de la musique. Je m'en souviens très bien, ce rêve qui m'a très vite attrapé et qui ne m'a jamais lâché en fait. Et lors de mon parcours musical, j'ai eu la grande chance, parce que je pourrais vous parler de chacun de mes professeurs, mais j'ai eu la grande chance de rencontrer Madame Geneviève Joie du Tilleul, qui a été une figure très marquante et très forte dans ma construction musicale, mais aussi en tant que jeune femme et jeune fille à l'époque musicienne, parce que c'était une personnalité très lumineuse, très énergique, très brillante, pleine de vie, et qui avait vécu plein de choses et qui avait plein d'anecdotes. Donc je la voyais pas énormément, je la voyais une ou deux fois par an, je pense, mais pour des longues après-midi où, évidemment, je jouais pour elle à l'époque, dans son appartement de la rue Saint-Louis à Paris. Mais aussi, je m'asseyais par terre, quasiment à ses pieds, puis j'écoutais avec presque, vous voyez, la bouche ouverte et des grands yeux ce qu'elle me racontait de son parcours, de sa carrière, des gens qu'elle avait fréquentés, de cette époque incroyable. C'est une énorme généralisation et un gros schéma que je vais faire là. Mais je me souviens très bien qu'elle me disait souvent, avec beaucoup d'humour et encore une fois, beaucoup de bienveillance, elle me disait « Écoute, il faut jouer sans chichi. Voilà, tu joues sans chichi et tu t'enquiquines pas à faire des manières. Vas-y, joue et ça sera très beau. » Et j'ai gardé... J'ai gardé cette image de jouer sans détour et ça ne veut pas dire sans subtilité, ça ne veut pas dire sans nuance ou sans finesse, mais ça veut dire voilà, y aller, s'investir totalement et ne pas s'excuser de jouer, ce qui parfois peut être l'écueil de la jeunesse quand on est un peu timide et qu'on n'ose pas trop s'affirmer.
Geneviève Joie du Tilleul, qui était, je le rappelle, l'épouse d'Henri du Tilleul, ce merveilleux compositeur. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs Henri du Tilleul?
Oui, je l'ai croisé deux, trois fois. J'ai même eu la grande chance de lui jouer une fois une de ses œuvres. Et je me souviens du contraste où lui était beaucoup plus réservé, beaucoup plus intime et beaucoup plus sérieux. Mais je me souviens qu'il avait été aussi d'une grande bonté et qu'il avait, je crois, apprécié mon interprétation de son œuvre.
Et c'est la réputation qu'ils avaient tous les deux d'être bienveillants, effectivement, notamment avec les jeunes musiciens. Est-ce qu'il y a aussi de grands pianistes vivants ou disparus qui sont ou qui ont été des modèles pour vous?
Oui, évidemment, surtout dans les grands pianistes de la grande tradition russe et slave et allemande, la moitié du dernier siècle, enfin j'entends du XXe siècle. Donc je vais parler de Richter, je vais parler de Gilels, je vais parler de Kempf. Toute cette génération de grands maîtres qui m'ont énormément apporté, parce que je pense qu'ils appartenaient à une génération qui n'était pas encore marquée par l'impératif et la norme du disque d'aujourd'hui, qui est un peu parfois, hein, je caricature, mais qui peut être une course à la perfection et à éviter à tout prix la fausse note et une certaine uniformisation des jeux, alors qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup plus d'enregistrements live, en direct. La priorité était à la musique et à l'émotion. Et on s'en fichait un petit peu de savoir si toutes les notes étaient absolument parfaitement correctes. Et il y avait plus de messages, d'engagement, et c'était des personnalités fascinantes. Et c'est vrai que j'ai grandi avec ce modèle de pianiste aussi très assumé dans leurs choix musicaux.
Nous allons parler de Serge Rachmaninov dans quelques instants avec vous, un compositeur qui vous est cher, mais nous allons d'abord vous écouter une première fois dans cette émission. Vous interprétez ici la Rhapsodie sur un thème de Paganini.
Thank you.
La Rhapsodie sur un thème de Paganini de Serge Rachmaninoff, joué par Lise de la Salle, un extrait du CD Rachmaninoff que vous avez enregistré il y a quelques années avec l'Orchestre Philharmonique de Zurich sous la direction de Fabio Luizi. Rachmaninoff, donc, vous avez non seulement enregistré sa Rhapsodie sur un thème de Paganini, mais aussi l'intégrale de ses concertos, les quatre, toujours avec l'Orchestre Philharmonique de Zurich. Pourquoi ce compositeur est-il si cher à votre cœur, comme je l'ai dit il y a quelques minutes ?
J'ai eu la chance de découvrir sa musique très tôt et ça a tout de suite, ça sont des choses qui ne sont pas explicables, c'est une histoire de goût et d'affinité, mais c'est un compositeur qui m'a tout de suite parlé et qui a tout de suite fait écho et résonné fortement en moi. Et le fait d'avoir la chance de jouer dès l'adolescence, vers 13-14 ans, même avant, hein, vers 11 ans, je pense, m'ont permis de connaître son langage et de le côtoyer, et donc de pouvoir développer ce goût et cette attirance pour sa musique. Je ne sais pas si ça a une histoire de sang quelque part. Enfin, je m'explique, j'ai du sang russe beaucoup en moi, même si je suis née en France et j'ai un nom très français et j'ai une culture française, mais ma famille vient de là-bas et j'ai grandi avec aussi d'une certaine façon la culture russe et la musique russe. Et peut-être que ça résonne particulièrement de moi, je n'en sais rien, mais il se trouve que sa musique me parle beaucoup dans le sens où elle me paraît très forte émotionnellement, mais bah, je dévie un petit peu de votre question, hein, mais c'est important pour moi de le souligner. Souvent, la musique de Rachmaninoff qu'on entend aujourd'hui est jouée avec énormément de pathos, avec énormément d'emphase et avec énormément de roubato et d'excès. C'est quelque chose qui, moi, me dérange, je peux le dire. Et enfin, j'essaie de donner une interprétation qui soit pas ça, en tout cas, parce que j'estime que la musique des grands génies ou un petit peu les textes, que ce soit en musique ou en littérature, de grands auteurs, ils ont tout en eux et il n'y a pas besoin de surjouer, il n'y a pas besoin d'en rajouter à l'excès. Et Rachmaninoff, je pense, a une telle force, une telle intensité dans ses phrases mélodiques, et c'est la première chose évidente, aussi dans les harmonies et dans son style, qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, il y a tout ce qu'il faut dans sa musique. Et quand on connaît un petit peu, même superficiellement, le personnage et son tempérament, je crois que c'était quelqu'un de très élégant et de relativement sobre et de relativement humble et discret, très introspectif. Et j'essaye de rendre hommage à ce compositeur et ça me guide énormément dans le choix de mes interprétations, de rester le plus fidèle au texte, à la partition, sans chercher à faire un show ou quelque chose qui soit beaucoup plus dégoulinant que ça ne doit l'être.
Oui, on parle beaucoup le concernant de post-romantisme. Je ne sais pas d'ailleurs s'il ne faudrait pas parler de néo-romantisme s'agissant de l'œuvre et de la musique de Rachmaninoff. Mais outre la mélancolie qu'on prête souvent aux Slaves, aux Russes en particulier, moi j'ai toujours entendu dans sa musique la tristesse de l'exilé qu'il a été une bonne partie de sa vie. Est-ce que vous ressentez ça aussi, notamment bah, peut-être eu égard à vos origines ?
Ah, mais ça, c'est évident qu'il y a cette nostalgie, cette mélancolie dû à sa vie, et on le sait, il a toujours été à la recherche de cette âme russe, de ce pays disparu pour lui dans sa vie et qui lui était si cher, et on ressent ce manque. Après, je pense que c'est quelque chose qui teinte absolument toute sa musique et qui justement donne cette tonalité, cette sensibilité si particulière à sa musique. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des rares moments où on peut trouver de la joie dans sa musique, du bonheur, mais souvent c'est teinté un petit peu comme chez Chopin, je trouve, d'une mélancolie ou d'un regret ou d'un temps disparu. C'est rarement un bonheur présent, c'est souvent l'évocation d'un bonheur perdu, et c'est très très beau comme émotion à essayer de transcrire en musique.
Rachmaninoff, pianiste virtuose lui-même, dont on célèbre cette année à la fois les 150 ans de la naissance et on commémore en même temps les 80 ans de sa mort. Il a composé 4 concertos pour piano, vous avez enregistré les 4. Est-ce qu'il y en a un qui vous touche plus que les autres ou que vous préférez jouer plus que les autres ?
Les quatre ont une personnalité très, très, très distincte. Et je dirais que celui qui est le plus marquant parce qu'il se détache vraiment du lot, c'est le quatrième, qui est extrêmement moderne dans son écriture et dans ses thèmes. Alors évidemment, on retrouve toujours des grandes envolées lyriques, mais il y a beaucoup de passages qui sont beaucoup plus énigmatiques et qui sont beaucoup plus figuratif et beaucoup plus étonnant au niveau des harmonies et au niveau de la manière dont il nous emmène dans des harmonies encore plus complexes et dans des lignes musicales un peu plus étonnantes. Et parfois aussi une complexité rythmique qui n'est pas simple pour personne, ni pour l'orchestre, ni pour le chef, ni pour le pianiste. Après, en termes de plaisir, comme vous dites, à jouer, je pense que là, on sera ce soir en plein dans la notion de plaisir, parce que le deuxième reste celui qui, je pense, a touché le plus de personnes au monde, qui a des thèmes connus et que tout le monde, enfin, je connais pas de personne qui n'aime pas ce deuxième concerto. Il y a toujours une espèce de joie et de plaisir à plonger dedans. Et aujourd'hui, en plus, c'est un concerto que j'ai tellement joué et qui fait un petit peu partie, je pense, de mon ADN maintenant. Et il y a une vraie, il y a une vraie joie à pouvoir me laisser envahir par cette œuvre et simplement profiter de chaque note avec bonheur, parce que c'est vrai que c'est ça aussi la force des grands chefs-d'œuvre, c'est que c'est d'une évidence absolue.
Alors, il y a une évidence absolue dans le plaisir que ça procure, mais ce deuxième concerto, celui que vous allez jouer ce soir dans la vallée de l'Alzou, a la réputation d'être très difficile justement à jouer, notamment parce qu'il y faudrait de grandes mains. Bon, Rachmaninov, comme Chopin que vous évoquiez tout à l'heure, avait de grandes mains, des doigts très longs. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes en termes de technique pour exécuter ce concerto?
De toute façon, la musique de Rachmaninov, de manière générale, est toujours très complexe et très
Oui.
difficile à jouer. Donc, le deuxième n'est pas le plus dur. Il reste néanmoins très complexe techniquement. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'accords qui sont très larges. Alors, il y en a certains que j'arrive à plaquer, donc à jouer en une seule fois. Et il y en a certains, comme 9 dixièmes des pianistes, je dirais, que je suis obligée d'arpéger ou... parce que j'ai en effet pas la main qui peut attraper toutes les notes en même temps, mais je dirais que c'est devenu très commun de faire ça, puisque peu de pianistes ont des mains aussi grandes que celles de Rachmaninov, qui avaient vraiment, on le sait, des mains non pas grandes, mais extrêmement grandes.
Exactement, extrêmement grande. Eh bien, il est temps qu'on vous écoute une seconde fois dans cette émission, dans le deuxième concerto de Rachmaninov, cette fois-ci le plus célèbre, le plus joué. Vous jouez ici le fameux début du premier mouvement Moderato, encore accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Zurich sous la direction de Fabio Luizzi. le premier mouvement moderato du deuxième concerto de Rachmaninov, interprété par Lise de la Salle, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Zurich, dirigé par Fabio Luisi. Question, est-ce que jouer Rachmaninov en concert pour vous, c'est toujours une émotion, un enjeu particulier ?
Oui et non, dans le sens où chaque concert a pour moi un enjeu et une émotion particulière, et c'est un peu la magie de ce métier également. Mais comme je vous le disais, souvent on choisit Rachmaninov pour des concerts, soit d'ouverture de festival, soit de clôture, soit pour des événements importants. C'est un compositeur qui attire le public en général et qui est fédérateur et qui est associé parfois aussi à la célébration du piano. Donc il y a toujours une joie, je crois, à le jouer, à venir l'écouter et à le programmer. En ce sens, oui, ça reste un moment toujours particulier.
Deux questions pour terminer. Je crois que c'est aussi une première pour vous avec l'orchestre de la Garde républicaine. Qu'est-ce que ça représente de jouer avec cet ensemble très connu du grand public et dans le monde entier d'ailleurs, a fortiori dans un lieu comme Rocamadour ?
Bah écoutez, c'est des émotions évidemment, puisque c'est une première, et je trouve que c'est une des forces de notre métier aussi, c'est que on est amené à découvrir soit des nouveaux lieux, soit des nouveaux orchestres, soit des nouvelles collaborations avec des chefs d'orchestre. Donc il y a toujours un élément nouveau qui fait que on a beau jouer, comme je vous le disais, j'ai énormément joué le deuxième, mais ce sera une première ce soir parce que lieu nouveau, orchestre nouveau, donc c'est des nouvelles émotions, des nouvelles collaborations et ça crée quelque chose d'unique qui ne peut avoir lieu que lors de ce rendez-vous précis. Et en effet, avec l'orchestre, c'est une nouvelle rencontre pour moi.
Et aussi, je pense que vous êtes, comme tous les musiciens, vous êtes sensible aux lieux dans lesquels vous jouez, vous êtes inspiré, plus ou moins d'ailleurs, par le lieu où vous vous produisez. Est-ce que le fait de jouer en plein air, c'est quelque chose que vous appréciez ou que vous redoutez ?
Les deux à la fois. Très souvent, ce sont des cadres assez magnifiques, encore une fois très très beaux par leur essence et qui inspirent, comme vous l'avez dit, quelque chose de fort. Mais parfois, les contingences techniques, les difficultés que l'on rencontre sont liées justement à la magie du lieu et il peut y avoir des problèmes divers et variés. Alors ce soir, avec un peu de chance, on n'en aura aucun. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des aléas qu'on ne connaît que lors des concerts en plein air. Mais je pense que ça fait partie intégrante du concept du festival d'été qui se passe dans un lieu qui fait venir aussi le public et qui crée son charme. Donc c'est un grand tout et ça va ensemble.
Merci infiniment, Lise de la Salle. Je rappelle donc que vous allez jouer ce soir à 20h30 dans la vallée de l'Alzou, au pied de la cité de Rocamadour, le deuxième concerto pour piano de Serge Rachmaninov, accompagné par l'orchestre de la Garde républicaine dirigé par le colonel Sébastien Billard. Au programme de ce concert de clôture du 18e festival, il y a également la célèbre symphonie du Nouveau Monde d'Antonin Dvorak. Il reste des places, les réservations et l'achat des billets sont à faire en ligne sur le site du festival www.rocamadourfestival.com. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous quotidien sur Radio Présence tout au long de cette édition 2023. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi à l'écoute de nos programmes.